Il est 7h03. Bonjour, Luc.
Monsieur Lacroix, bonjour.
Alors, parle-moi de Pierre Fitzgibbon qui va faire une annonce ce matin. Il va être à la Société des arts technologiques.
Oui, monsieur, tu vois, même pendant les vacances de la construction, il y a des annonces gouvernementales. Ça sera une annonce, je pense, importante pour le secteur des arts, mais également pour Montréal. Alors oui, le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon, va être ce matin à 10h45 à la Société des arts technologiques pour faire une annonce d'une subvention. Alors, on parle pas d'un prêt, là, mais d'une subvention de 3,3 millions de dollars pour soutenir le laboratoire, en fait, de la Société des arts technologiques, le Métalab. Évidemment, on sait à quel point la Société des arts technologiques, c'est un organisme important pour le développement des arts technologiques, pour la culture, pour les autres façons de faire, les autres manières de créer. Ça contribue au rayonnement international du Québec. Alors, je pense que cette annonce-là, elle sera bien reçue. Le ministre va annoncer que deux projets qui sont retenus, pour lesquels il y aura cette subvention-là. Le ministre va préciser, évidemment, les projets, mais je peux déjà te dire, Louis, qu'un des projets qui vise justement à explorer des nouveaux types de captation sonore et visuelle. Alors, on parle, oui, d'une subvention de 3,3 millions de dollars pour un investissement total, parce que la valeur des projets, c'est 5,2 millions, donc il y a d'autres sources de financement, mais quand même une subvention importante de la part du gouvernement. Alors, ça peut paraître peu, le 3,3 millions de dollars, mais je peux te dire, pour avoir été ministre de la Culture, que chaque dollar est très apprécié dans ce domaine-là, parce que le dollar, il est rare. Mmh. Et au-delà, je te dirais, des sommes investies ce matin par le gouvernement, c'est vraiment l'appui du gouvernement au secteur des arts qui sera, je pense, remarqué et apprécié des gens qui seront là.
Bon. Et par sa tournée au Québec, Andrew Scheer démontre qu'il est prêt à mener une bonne campagne au Québec. Il y a beaucoup de... En fait, il mise beaucoup sur le Québec.
Il mise beaucoup sur le Québec, puis visiblement, il y met de l'énergie. Hein.
Ouais.
Il est en tournée au Québec présentement. Moi, je le suis un petit peu depuis hier, puis je peux te dire, je suis assez impressionné de la façon dont ils sont organisés dans cette campagne-là. Autant j'avais été surpris du peu d'organisation de l'équipe de Jack Mitzing la semaine dernière par sa visite à Sherbrooke. Là, on voit vraiment là, qu'ils sont préparés, qu'il est bien encadré Andrew Scheer. Les endroits qui sont visités sont bien choisis. Je vais te donner plusieurs exemples. Hier, il est allé rencontrer la communauté italienne de Montréal à Saint-Léonard. Et ça, je te dirais que je t'ai trouvé ça assez habile parce qu'on le sait que la communauté a des doléances présentement envers Justin Trudeau parce que les libéraux n'ont pas un candidat qui est issu de la communauté italienne. Puis là, ce qu'on me dit du côté des conservateurs, c'est que les leaders de la communauté disent « Cette fois-ci, là, c'est vrai, on va sortir puis on va appuyer le Parti conservateur. » Alors, on va voir si c'est ce qui va se produire le 21 octobre. Mais ceci étant dit, il y avait quand même du monde là hier. On me dit 200 personnes. Bon, j'ai vu des photos puis une vidéo. En tout cas, il y avait du monde. Ceci étant dit, c'est une bonne chose pour lui d'avoir été là. Ensuite de ça, il s'est rendu à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, a réitéré son engagement de réviser le nouveau guide alimentaire canadien. Alors, ça fait plaisir aux agriculteurs qui étaient là. Donc, ça démontre ça aussi, qu'il est capable vraiment de capter le bon message, là, d'appuyer sur le bon bouton pour séduire justement la clientèle visée dans l'endroit où il se trouve. Puis hier, il le fait à Saint-Hyacinthe, il le fait aussi à Québec, hein, parce qu'il est allé à Québec voir un match des Capitales. Et de quoi il a parlé devant les médias? Du pont de Québec, évidemment, hein, ça demeure un grand enjeu pour la région de Québec. Il a parlé du troisième lien aussi. Alors, il sait que ce sont des projets qui sont porteurs dans l'opinion publique là-bas. Puis je te dirais que dans ses messages globaux pour le Québec, il sait parler de sujets qui vont toucher aux gens. Il parle notamment de toute la question du coût de la vie. Puis on l'a vu dans notre sondage que les gens ont la perception que le coût de la vie a augmenté au cours des 4 dernières années. Puis même quand il parle d'environnement, puis on sait que c'est quand même un sujet délicat pour lui, il réussit à aborder des sujets dans lequel il ne se mettra pas dans le trouble. Parce qu'évidemment, s'il parle de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, ben là, on va lui ramener le pipeline, le pétrole albertain. Alors, il parle d'environnement, mais il parle de déversement des eaux usées. Puis on sait que oui, ça, c'est un enjeu un peu partout, puis notamment au Québec. Il parle de son projet d'instaurer un crédit d'impôt pour la rénovation verte. Ça aussi, ça peut parler aux gens. Alors, je dirais que je le trouve assez habile dans la façon dont il fait sa tournée préélectorale. Il fait aussi des activités grand public pour démontrer qu'il est accessible à la population. Il va faire ça encore aujourd'hui au lac Saint-Jean. Il va être du côté de l'expo agricole de Chicoutimi. Il va aller dans une activité de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Alors, ils font une bonne pré-campagne. Ils ont eu des sondages un petit peu plus difficiles récemment, mais notamment Ils démontrent qu'ils sont prêts à faire cette campagne-là, qu'ils savent quels sont les enjeux qui touchent la population. En même temps, c'est sûr qu'ils génèrent des attentes parce que là, ils parlent de beaucoup de sujets. Alors, s'ils sont élus, ils vont devoir livrer ça. C'est un petit peu le risque dans cette démarche de séduction-là. Mais en même temps, ça démontre que la campagne, elle sera importante pour eux. Puis on sait que les campagnes, désormais, elles comptent. Alors, les conservateurs, je pense qu'ils pourraient surprendre pendant la campagne électorale et ils seront à suivre très certainement.
Et là, ben, la Cour fédérale qui dit à Élections Canada, vous allez vous pencher à nouveau sur l'idée de déplacer la date des élections parce qu'il y a une candidate de confession juive qui dit, ben, on peut pas tenir ça le 21 octobre, il y a une fête juive, puis là, ben, moi, j'ai pas le droit de travailler pendant ce temps-là.
Ben oui. Hey, on en a parlé ensemble la semaine dernière, là. Et puis, moi, je peux te dire, j'étais bien, bien surpris de voir la décision de la Cour fédérale hier de la juge Anne-Marie McDonald. Là, parce que elle, ce qu'elle dit, dans le fond, là, ça a dit à Stéphane Perrault, directeur général des élections, refaites vos devoirs, là, parce qu'il manque de preuves. Vous n'avez pas donné suffisamment de preuves que vous avez assuré l'équilibre entre la violation des droits de ces électeurs-là, là, qui sont affectés, donc on parle des juifs orthodoxes, puis les objectifs de la loi électorale, puis Hayden jusqu'au 1er août pour refaire ses devoirs, puis lui, il dit, bon, c'est ce que je vais faire, je vais rendre ma décision le plus rapidement possible.
Mais en même temps, elle dit, je peux pas fixer de date d'élection moi-même.
Non, c'est pas à la Cour de le faire non plus. Elle lui demande tout simplement de refaire ses devoirs, mais je peux pas croire qu'ils n'ont pas considéré toutes les possibilités de voter par anticipation. On en arrive à une conclusion comme celle-là, puis oui, là, on nous dit que même s'il y a 4 jours de vote par anticipation, il y en a 3 jours qui seraient problématiques pour la communauté.
Mais elle, ce qu'elle dit, entre autres, comme argument, la candidate, c'est qu'elle-même pourra pas travailler pendant la dernière semaine parce que cette fête juive-là dit que t'as pas le droit de travailler. Donc, elle dit, comment je vais faire sortir le vote de mes électeurs pour le 21 octobre si je peux pas travailler moi-même? Alors, c'est là qu'est un peu l'argument qui vient un peu contrecarrer le fait de dire, ben, on peut voter par anticipation n'importe quand, tu sais. C'est comme si, autrement dit, elle disait, ben là, vous m'enlevez une semaine de campagne électorale.
Oui, mais en même temps, c'est parce que si on commence ça, là, on n'a pas fini non plus, tu en as parlé. Il y en a beaucoup de fêtes culturelles et religieuses au Canada. Puis là, quand t'es rendu que t'as plusieurs journées dans un mois qui sont problématiques, là, quand est-ce qu'on va voter? Je pense qu'on va être obligé de voter le 30 février. Là, c'est une journée qui n'existe pas, donc qui sera pas problématique dans le calendrier à un moment donné. Là. Alors, ça devient bien, bien difficile, justement, pour Élections Canada de trouver une date. Mais les gens, là, elle peut faire campagne, puis ils peuvent voter à n'importe quel moment pendant la campagne électorale au bureau du directeur du scrutin. Je pense que ça, il faut le répéter. Et moi, je peux te dire, là, quand je regarde les réactions sur les médias sociaux depuis hier, ça va devenir un enjeu délicat. Puis ça peut devenir un enjeu de la campagne électorale, notamment au Québec. Là, on sort quand même d'un débat où on est toujours dans un débat sur la laïcité. Et puis, il y a des gens qui vont nous dire, est-ce qu'il va y avoir un effet d'entraînement? Est-ce qu'il va y avoir d'autres demandes? Et puis, quand tu vois le caractère des réactions sur les médias sociaux, là, c'est parfois très, très vif.
Mais
je peux
te
dire, ça va pas aider aux relations interculturelles non plus. Là.
Ce serait impensable de tenir une élection, je sais pas, mettons, le 27 décembre.
Ben, c'est clair, mais c'est pas
ou
nécessairement
encore le 3 janvier.
Oui, à cause de, évidemment, des fêtes de Noël puis du jour de l'an. Alors, oui, on pourrait dire qu'il y a une raison religieuse, mais il y a la force du nombre aussi, tu sais. Essaie de faire une élection le 25 décembre, là, t'auras pas grand monde pour faire voter les électeurs, là, d'un bureau de vote, là. Je pense qu'il faut être logique aussi, non? Et là, en tout cas, faut falloir voir c'est quoi la décision, la recommandation d'Élections Canada, là, mais très certainement à suivre. Et ça va devenir un enjeu politique. Tu as déjà vu hier, Yves-François Blanchet qui s'est positionné là-dessus.
Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi, ceci dit. Là. Mais je t'amène des arguments que
ben oui, que, ben que les arguments autres, ben
vont
oui,
amener.
C'est
là.
Clair. C'est clair. Ouais. Et puis, mais ceci étant dit, j'en ai parlé aussi la semaine dernière, là, on a vécu un peu ça dans l'élection provinciale en 2018, puis il n'y a pas personne qui est allé jusqu'à demander le report des élections. Ils ont dit organiser le vote par anticipation en conséquence. Puis je pense que c'est ce qu'on devrait faire pour l'élection fédérale.
Merci Luc. À demain.
À demain. Bye bye.
Salut.